VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans le monde aujourd'hui du jeudi 24 octobre 2019. Et Kiabadou avec vous, voici les titres. Fin du sommet Russie-Afrique à Sochi. Des milliers de Guinéens ont manifesté à Conakry contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko autorisé provisoirement à sortir de prison pour assister aux obsèques de sa mère. Le Niger abrite près de 450 000 réfugiés déplacés internes, chassés par les violences djihadistes selon l'ONU. Le Parlement européen condamne l'intervention turque dans le nord-est de la Syrie et appelle Ankara à retirer l'ensemble de ses forces armées. Et puis ne manquez pas dans 10 minutes l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. En Guinée, les opposants à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé sont à nouveau massivement sortis dans les rues de Conakry. La marche qui s'est déroulée sur l'autoroute Fidel Castro était conduite par le chef de file de l'opposition et plusieurs leaders politiques membres du Front National pour la défense de la Constitution. On fait le point avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
Après quelques heures de regroupement au rond-point de la tannerie, la marée humaine s'est ébranlée sur l'autoroute Fidel Castro. À sa tête, Sylou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition.
Le peuple de Guinée ne veut pas de troisième mandat. Monsieur Alpha Condé devrait le comprendre. Il y a eu quand même beaucoup de tueries. 115 citoyens abattus, à bout portant, sans jamais bénéficier de la moindre compassion du gouvernement, de la moindre enquête et de la moindre des justices. C'est inacceptable. C'est ce hacker-là qui va l'empêcher de comprendre le message du peuple.
La foule a scandé en soussou « Amou l'enfé » qui signifie « ça n'aura pas lieu ». Les manifestants d'une seule voix exigent une alternance. Pas de troisième mandat en 2020, pouvait-on lire sur les pancartes. La marche s'est terminée sans incident sur l'esplanade du 28 septembre de Conakry. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
À Sochi, en Russie, le sommet Russie-Afrique a refermé ses portes. Une quarantaine de chefs d'État africains reçus par Vladimir Poutine avaient hier au menu dominé par l'économie. Et ce jeudi, les questions politiques et diplomatiques avaient repris leurs droits. Un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. La Chine a lancé ce jeudi à Abidjan un projet visant à connecter 500 villages ivoiriens à la télévision par satellite et vise à terme 10 000 villages africains dans 20 pays afin de permettre aux populations des zones rurales de recevoir la télévision. Les échanges entre la Chine et la Côte d'Ivoire ont progressé de 800% entre 2014 et 2016. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que la France devait tenir sa place en Afrique face à la concurrence chinoise et promis des partenariats gagnant-gagnant aux pays africains qui font le choix des entreprises françaises. La France reste le premier investisseur étranger au Cameroun avec 1,1 milliard d'euros en 2018, mais a perdu sa place de premier fournisseur face à la Chine. Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko va pouvoir quitter provisoirement la maison d'arrêt de Brazzaville pour assister aux obsèques de sa mère. Il a été condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté intérieure et détention illégale d'armes. Le point avec Idriss Fall.
L'annonce a été faite sur Twitter par Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement congolais. Maître Jean-Philippe Esso, l'un des avocats de l'ancien chef d'état-major des forces armées, a introduit samedi une requête pour que son client obtienne une permission de quelques jours pour organiser les obsèques de sa mère. Le général Mokoko est fils unique de sa mère, qu'il n'a pas vu depuis qu'il a été incarcéré il y a bientôt 3 ans. Une source gouvernementale assure que les autorités ne vont pas s'opposer à cette demande. On s'attend donc à une décision de justice qui devra également se prononcer sur la durée de la libération provisoire. La mère du général Mokoko est décédée vendredi à Pointe-Noire. Son corps doit être rapatrié à Brazzaville et pour l'instant, aucune date n'a été fixée pour les obsèques.
La République démocratique du Congo et les armées des pays voisins veulent unir leurs efforts contre les groupes armés dans la région des Grands Lacs, a annoncé ce jeudi un haut gradé de l'armée congolaise à l'issue d'une réunion à Goma. En République démocratique, toujours, les partisans de l'ancien président congolais Joseph Kabila ont déclaré ce jeudi qu'aucune disposition constitutionnelle ne l'empêchait de revenir à la tête du pays à l'expiration du mandat du président Félix Tshisekedi en 2023. Cette déclaration a été faite à l'issue d'une réunion d'évaluation du Parti du Peuple pour la Reconstitution et la Démocratie tenue à Lubumbashi, et c'est aussi le fief de Monsieur Kabila. Reporters sans frontières a exigé ce jeudi la libération de 4 journalistes burundais et de leur chauffeur arrêté il y a 2 jours par la police au Burundi, alors qu'ils couvraient l'incursion meurtrière de rebelles burundais venus de la République démocratique voisine. Les journalistes travaillaient pour Iwaku, l'un des derniers médias indépendants du Burundi. 2 militaires burkinabés ont été tués mercredi dans l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur véhicule à Ban, dans le nord du Burkina Faso. Le pays est pris depuis 4 ans et demi dans une spirale de violence attribuée à des mouvements djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique. Le Niger, un des pays les plus pauvres au monde, abrite près de 450 000 réfugiés déplacés internes et l'ONU s'inquiète de ce phénomène. Ces réfugiés proviennent en majorité du Nigeria, du Mali et du Burkina Faso. Claire Morin-Gibourg.
Le chiffre est tombé après 2 jours d'une réunion du HCR sur le financement des activités humanitaires. Près d'un demi-million de personnes sont au Niger, chassées par les inondations, les violences djihadistes ou des bandes armées. Les Nations Unies s'inquiètent du manque de fonds pour couvrir tous les besoins. Selon le HCR, la région de Difa accueille près de 120 000 réfugiés nigérians et près de 110 000 déplacés internes qui ont fui Boko Haram. L'ONU dénombre aussi dans les régions de Tillaberi et Tawa plus de 78 000 déplacés, près de 57 000 réfugiés maliens et plus de 2 000 du Burkina. Aux besoins de ces réfugiés déplacés se sont ajoutés ceux de 220 000 personnes affectées par les inondations entre juin et août, a alerté Félicité Chibinda, la représentante de l'UNICEF au Niger. À ce jour, précise-t-elle, seuls 50% du budget du plan de réponse humanitaire, estimé à 383 millions de dollars, ont été mobilisés.
Manifestation en Éthiopie. Au moins 2 personnes ont été tuées, des dizaines blessées dans des manifestations ce mercredi contre le Premier ministre et prix Nobel de la paix Abiy Ahmed. C'est ce que rapportent ce jeudi les médias publics, alors que selon des témoins, les actions de protestation se poursuivaient.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Parlement européen a condamné ce jeudi l'intervention turque dans le nord-est de la Syrie. Les eurodéputés exhortent Ankara à retirer l'ensemble de ses troupes. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans la résolution votée à main levée, le Parlement estime que l'intervention militaire turque représente une violation grave de la législation internationale et qu'elle compromet la stabilité et la sécurité de la région dans son ensemble. Les eurodéputés rejettent la création d'une prétendue zone de sécurité et expriment leur solidarité avec le peuple kurde. Ils émettent également des craintes sur une résurgence du groupe État islamique. Ils demandent aux États membres de prendre une série de sanctions ciblées et interdiction de visa contre les hauts fonctionnaires turcs responsables des atteintes aux droits de l'homme perpétrées dans le cadre de l'intervention militaire en cours. Ils souhaitent que les États membres envisagent la suspension de l'union douanière entre l'Union européenne et la Turquie. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, refuse de condamner l'opération. Il a même avalisé les légitimes préoccupations pour sa sécurité avancées par la Turquie, qui est aussi membre de l'Alliance Atlantique.
Les forces kurdes en Syrie ont quitté ce jeudi des positions qu'elles tenaient depuis des années le long de la frontière turque, se conformant à un accord russo-turc qui a mis un terme à leur rêve d'autonomie. L'armée russe continue de son côté les patrouilles qui ont débuté mercredi le long de la frontière. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé ce jeudi à la tenue d'élections générales le 12 décembre prochain, un scrutin qui doit encore recevoir le soutien de l'opposition travailliste. si le Parlement veut plus de temps pour étudier l'accord du Brexit qu'il a conclu avec Bruxelles, les députés peuvent l'avoir, mais ils doivent l'approuver avec des élections générales le 12 décembre, a déclaré à une semaine de la date prévue pour la sortie de l'Union européenne. Et puis au Liban, le président Michel Aoun s'est adressé ce jeudi pour la première fois au Libanais depuis le début d'une contestation inédite qui a quasiment paralysé le pays, et il a opposé une fin de non-recevoir à la principale revendication réclamant le départ de l'ensemble de la classe politique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nathalie Barge.
Pendant le sommet Russie-Afrique à Sotchi, l'agence nucléaire russe Rosatom a signé un accord préliminaire de coopération pour construire un centre de recherche au Rwanda. Hier, le géant russe a signé un accord avec l'Éthiopie pour un projet de construction d'une centrale nucléaire de grosse capacité. La société publique russe Rosgeo, spécialisée dans les études géologiques et sismiques, a également signé un accord avec le Rwanda pour faire de la prospection de matières premières. Lors d'un échange avec des chefs d'entreprise à Douala, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a promis des partenariats gagnant-gagnant aux pays africains qui font le choix des entreprises françaises, en référence aux grands chantiers d'infrastructures chinois. Pékin développe son projet de nouvelle route de la soie à travers la construction de ports, de lignes ferroviaires et d'aéroports. La compagnie minière nigérienne Cominac a annoncé l'arrêt de sa production d'uranium dans 2 ans en raison de l'épuisement des réserves et d'une forte baisse des prix. La date d'arrêt de la production du site d'Akoutam est fixée au 31 mars 2021. La Cominac a clôturé l'exercice 2017 avec une perte nette de 16 milliards de francs CFA et d'au moins 17 milliards pour 2018, a déclaré en mai dernier le ministre des Mines Hassan Barazé.
C'est le moment de notre page sportive présentée par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eka, bonsoir à tous.
Le Sénégal, la Tunisie et le Nigeria sur le podium du classement FIFA Zone Afrique.
Oui, le Sénégal tient toujours le haut du tableau en Afrique avec la Tunisie et le Nigeria. Les Lions de la Teranga sont 20e dans le monde, les Aigles de Carthage 25e et les Super Eagles perdent un rang pour se classer 35e. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, est 4e sur le continent pour une 38e place mondiale. Le Maroc complète le top 5 africain et pointe à la 42e place dans le monde. L'Égypte, le Ghana, le Cameroun, la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire bouclent le top 10 en Afrique. Au plan mondial, le podium est toujours entretenu par la Belgique première, suivie par la France et le Brésil.
La Liga va faire appel de la décision de reporter le Classico au 18 décembre.
La Ligue espagnole de football est en désaccord avec cette nouvelle date qu'elle juge trop tardive pour ce choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid. La Liga prétend que selon le règlement de la fédération, une rencontre reportée doit l'être à la date la plus proche possible qui, selon elle, est le 4 décembre. Elle évoque aussi des considérations de diffusion le 18 décembre entrant en concurrence avec la Copa del Rey. Hier, la Fédération espagnole de football a annoncé avoir fixé au 18 décembre la nouvelle date du Clasico, match de club le plus regardé au monde, initialement prévu le 26 octobre au Camp Nou à Barcelone, mais reporté en raison des violentes manifestations en Catalogne.
La Chine accueillera la Coupe du Monde des clubs 2021.
La FIFA a attribué l'organisation de la Coupe du Monde des clubs 2021 à la Chine. Il s'agira de la première édition qui se disputera à 24 équipes. Elle devrait permettre d'atteindre 50 milliards de dollars de revenus commerciaux, d'après le président de la FIFA, Gianni Infantino. Cette nouvelle formule se disputera tous les 4 ans et remplace la Coupe des Confédérations. L'actuelle version du Mondial des clubs oppose 7 équipes, dont le vainqueur de la Ligue européenne des champions. Les éditions 2019 et 2020 auront lieu au Qatar. La FIFA prévoit aussi de doubler le budget destiné au développement du football féminin, le portant à 1 milliard de dollars sur les 4 prochaines années.
Le Sud-Africain Cheslin Kolbe forfait pour la demi-finale du Mondial de rugby.
L'ailier star des Springboks ne disputera pas la demi-finale contre le pays des Galles dimanche. Cheslin Kolbe s'est blessé à une cheville lors de la victoire écrasante en phase de poule contre l'Italie, 49-3. Il sera remplacé par Tsubu Nkosi, qui formera la paire d'ailier avec Makazole Mapimpi. Meilleur marqueur de la compétition avec 5 essais, le sélectionneur sud-africain n'a effectué aucun autre changement sur la feuille de match, gardant ici son bas à 6 avant et 2 arrière pour la demi-finale dimanche à Yokohama.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, place à présent à nos dossiers du jour. Le président russe, Vladimir Poutine, salue une nouvelle page des relations entre Moscou et le continent africain. Poutine espère que le sommet qui a pris fin ce jeudi va intensifier la coopération pour remplir les objectifs de Moscou. Bourama Koulibaly est étudiant malien en master de journalisme à Astrakhan en Russie. Joint par Bagassi Koura, il nous donne son avis sur la tenue de ce sommet.
La Russie voit déjà que la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Turquie sont déjà sur le continent africain. Quand on regarde les investissements qui se font en Afrique chaque année, l'Union européenne, ça fait 275 milliards de dollars. La Chine, ça fait 200 milliards de dollars. L'Inde, ça fait 70 milliards de dollars. Les États-Unis, 53 milliards de dollars. La Turquie, 20 milliards de dollars. Donc la Russie vient à la dernière position avec 17 milliards de dollars. Donc, vu tout cela, je pense que la Russie est en train quand même de partir vers les pays africains pour pouvoir occuper également sa place.
Quand vous sortez dans la rue, est-ce que les Russes connaissent l'Afrique?
Beaucoup de Russes ne connaissent pas l'Afrique. Cela est dû au fait que la Russie, c'était un pays fermé par le passé, mais maintenant, ils commencent à comprendre qu'avec la mondialisation, donc, la Russie ouvre maintenant ses portes à tout le monde, puisque chaque année, beaucoup d'étudiants à travers le monde viennent étudier en Russie. Donc, il y a un brassage de culture déjà en Russie, donc les Russes commencent à connaître les Africains.
On a souvent parlé du racisme. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez connu là-bas?
Non, personnellement, je n'ai jamais vu de racisme ici depuis que je suis arrivé. Au contraire, la Coupe du Monde qui s'est tenue en Russie en 2018 a montré même, parce qu'il y a ce qu'on appelle le stéréotype. Beaucoup de gens parlent mal de la Russie quand ils n'ont pas encore visité la Russie. Mais quand vous venez ici, vous allez voir le contraire. Je suis malien étranger. Donc ici, depuis que je suis venu, dans les transports en commun, il n'y a pas de racisme. Dans les universités, dans les hôpitaux, dans les magasins, je n'ai pas vu de racisme ici. Également, ce qui m'a beaucoup étonné, je suis encore musulman. J'y vais chaque vendredi à la mosquée, donc même dans les mosquées, il n'y a pas de racisme. Donc, personnellement, je peux quand même dire que je n'ai pas vécu le cas racisme en Russie ici.
Vous êtes malien et récemment dans les rues de Bamako et de Sévaré, on a vu des pancartes appelant à l'intervention russe au Mali. Comment est-ce que vous réagissez à cela?
Je pense que le Mali et la Russie quand même ont des relations depuis 1960, quand Modibo était encore président de la République du Mali, au moment où la Russie s'appelait l'Union soviétique. Donc, je pense que les Maliens ont vu en ce moment, la Russie a beaucoup aidé le Mali dans le domaine de sécurité avec beaucoup d'armements de guerre donc, que la Russie a donné au Mali. Les Maliens se souviennent de cela.
Bourama Koulibaly, étudiant malien à Astrakhan, en Russie.
Cette semaine, dans Washington Forum, zoom sur la jeunesse congolaise et ses défis, ses engagements, ses rêves pour l'avenir. C'est en spécial Washington Forum que nous vous proposons une émission réalisée à Kinshasa avec notre partenaire B1, présentée par Abdourahman Dia et Julie Sefou. L'emploi des jeunes, l'accès à une éducation de qualité pour tous, la mobilisation pour des causes citoyennes, quel message pour les nouvelles autorités congolaises? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Mali, la justice a lancé une campagne de lutte contre la corruption. Le président des agriculteurs, Bakary Togo, et le maire de Bamako, Adama Sangaré, sont derrière les barreaux. Ils sont accusés de détournement de fonds publics. Cette croisade contre la corruption est bien appréciée par certains Maliens. À Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
En début d'année, le président du Conseil national du patronat du Mali dénonce ouvertement la corruption au sein de l'administration malienne, Mamadou Senssi Koulibaly.
Depuis 2015, je me suis fixé comme objectif de lutter contre la corruption. J'ai côtoyé les ministres, je les ai accompagnés dans leurs différentes missions. C'était une stratégie pour moi, pour qu'ils acceptent ce que je leur demande, la lutte contre la corruption.
L'arrivée du ministre Malik Koulibaly à la justice et la nomination du magistrat Mamoudou Kassogué comme procureur de la République chargé du pôle économique et financier de Bamako ont permis de relancer la lutte contre ce fléau. Mamoudou Kassogué, procureur anti-corruption.
Nous allons mettre en œuvre un système qui nous permettra de lutter contre la corruption de façon objective en ouvrant systématiquement des enquêtes chaque fois que des faits de corruption nous seront dénoncés pour qu'on sache ce qui se passe, pour qu'on comprenne ce qui se passe.
Suite à cette annonce, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, Bakary Togola, a été interpellé et placé sous mandat de dépôt pour une affaire de ristournes de 4 milliards de francs CFA non justifiés des producteurs de coton. Ousmane Diallo, étalagiste.
C'est une bonne chose parce que ça permettra quand même aux Maliens quand même de connaître la vérité. Tout ce que les Maliens payent comme impôt, il faut qu'ils savent là où on utilise.
Puis un autre poids lourd, Adama Sangaré, maire du district de Bamako, a été placé sous mandat de dépôt le 22 octobre. Il lui est reproché un marché de 500 millions qui a été exécuté lors des travaux d'éclairage public de la capitale lors des festivités du cinquantenaire du Mali en 2010. Django Koulibaly, chargé de communication au sein de la société civile.
Vraiment, cette action de la justice actuellement qui a vu beaucoup de personnalités arrêtées et placées sous mandat de dépôt au niveau de la prison centrale de Bamako est à saluer. Cette mission, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui sont dans ce pays, qui sont prêts à tout pour saboter le travail. C'est pourquoi je lance un appel à tous les Maliens de soutenir ces renouveaux de la justice. Vaut la peine.
Les Maliens attendent toujours d'y voir plus clair dans d'autres affaires comme celle des avions cloués au sol et l'achat des équipements militaires. Des auditions des hauts gradés de l'armée malienne sont en cours actuellement et les Maliens veulent savoir ce qui s'est passé, surtout lorsque d'autres soldats maliens meurent pendant des attaques des groupes djihadistes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Il y a 10 ans, le Nigeria enregistrait la moitié des cas de poliomyélite dans le monde. Mais à la suite d'un programme de vaccination agressif, le pays est sur le point d'être exempté de la maladie. En dépit de cette avancée majeure, de nombreux survivants au Nigeria doivent faire face à leur handicap, bien qu'un survivant ait trouvé le moyen de fournir un soutien et de donner de l'espoir à des milliers d'autres personnes. Reportage de Timothy Ebiezu à Abuja, récit Mohamedou Oumfa.
Ayuba Goufouane a contracté la polio à l'âge de 5 ans. La maladie a paralysé ses deux jambes. Comme de nombreux survivants, il a dû se battre pour surmonter son handicap. Il est finalement devenu avocat. Grâce à ses revenus professionnels et à des dons, il a ouvert un centre pour personnes handicapées, la Beautiful Gate Handicap People Center, un centre qui fabrique et distribue gratuitement des fauteuils roulants.
Our desire was basically to bridge the gap between...
Notre souhait était en fait de combler le manque qu'il y a entre l'éradication de la poliomyélite et la réadaptation des survivants. L'éradication de la polio est centrée sur la prévention. Rien ou peu a été fait pour prendre soin des survivants.
And to ameliorate the suffering of polio victims.
Pendant plus de 10 ans, le centre de Goufouane a aidé environ 18 000 survivants au Nigeria, au Tchad, au Niger et au Cameroun. Ibrahim Oumar, l'un des bénéficiaires, a reçu un fauteuil roulant gratuit et travaille maintenant pour le centre.
J'ai commencé à travailler ici en 2016. Je n'avais aucune expérience avant cela. J'ai tout appris ici.
Le Nigeria n'a enregistré aucun cas de poliomyélite depuis 3 ans. Cependant, l'Association nigérienne de défense des droits des personnes handicapées attire l'attention sur les 27 millions de handicapés qui vivent dans le pays. 40% de ces personnes seraient des survivants de la polio. Irène Patrick, directrice de l'Association des handicapés.
Chaque année, à l'occasion de la Journée mondiale de la polio, l'accent est mis sur l'éradication, mais personne ne pense à ceux qui ont survécu, vivent avec un handicap et traversent divers défis. Pour nous, c'est aussi une priorité.
L'Assemblée nationale du Nigeria a voté un projet de loi visant à améliorer l'intégration socio-professionnelle des personnes handicapées et donc des survivants de la polio. Cependant, nombreux sont ceux qui doivent encore compter sur des bénévoles comme Goufouane.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Dans les endroits touristiques de la ville, il est courant d'apercevoir des marchands de rue transportant leurs articles dans des sacs à dos ou des grosses couvertures. Ils proposent des porte-clés à l'effigie de la Statue de la Liberté ou de la maroquinerie de contrefaçon, le tout à très bon prix. La majeure partie d'entre eux espèrent faire ce métier illégal de façon temporaire, mais rattrapés par la réalité du terrain, l'Eldorado n'est plus et les difficultés abondent. Dili Diko, notre correspondante à New York, est allée à la rencontre de ces vendeurs à la Sauvette.
Sur Canal Street, une rue très animée située à Chinatown, les vendeurs à la sauvette se relaient pour tenter de vendre des bricoles ou de faux sacs griffés aux nombreux touristes. En fin de journée, ils se fondent dans la masse de passants et n'hésitent pas à les inviter à voir leurs marchandises.
L'an 2008, j'étais dans la rue. Je vendais des trucs dans la rue. Et ici, à Canal Street, on m'a enfermé 2 fois. Je pense que ce que nous faisons ici, nous sommes conscients que ce n'est pas quelque chose de bon. Parce que c'est les marques des autres qu'on est en train de vendre ici. Donc, la police est là en train de nous chercher. Et certains qui n'ont pas là où partir, ils sont en Amérique ici, mais ils n'ont pas de degré à l'école, ils n'ont pas de carrière comme moi. Et ces gens-là, ils sont obligés d'être dans la rue.
20 ans après son arrivée aux États-Unis, Diango, un Malien d'une 50aine d'années, vient de décrocher son premier rôle dans un film sur le braconnage. Selon lui, c'est le manque d'opportunités sur le continent qui pousse les jeunes Africains à partir à l'aventure. Diango explique également pourquoi les vendeurs à la sauvette africains ont investi les abords du quartier chinois en abandonnant presque les endroits comme Times Square et la 125e.
C'est les Asiatiques qui amènent des marchandises. Ça vient de ces jeunes. Chez nous, en Afrique, on n'a rien. On n'a rien, c'est pour cela qu'on est là. Si on avait quelque chose chez nous, on n'allait pas partir, même pas venir ici.
Hélas, ce ne sont pas tous les vendeurs à la sauvette qui réalisent leur rêve. Très souvent, lorsqu'ils sont arrêtés par la police américaine, après une période de détention, ils sont rapatriés vers leur pays d'origine. Mustapha Goumbala a une astuce pour se faire discret et ne pas transporter de marchandises avec lui. Il se promène avec un petit catalogue sous forme de brochure indiquant les produits vendus.
Pour moi, tout est dangereux dans la vie. Tout est dangereux. Ma catalogue, j'ai beaucoup de choses de catalogue. Pour parfois des tourisme, venir ici pour vendre souvenirs. C'est ça que je garde le catalogue.
À voir comment certains membres de la communauté africaine ou même des locaux du quartier sont aux aguets pour lancer des alertes aux vendeurs à la sauvette. Lorsque la police est proche, on peut effectivement parler d'une grande famille. En tout cas, d'une très forte solidarité. Dili Diko, VOA Afrique, New York.
Coco, Coco, it's Coco.
Vous écoutiez un bout de Cocody Rock d'Alpha Blondie. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma était à la mise en onde. Sidra Franklin à la console. C'était Ekia Badou de Washington. Je vous souhaite une excellente suite de programmes à l'écoute de VO Afrique. Don't fear, ain't got no fear. It's beating down the best line. Why don't you get on board the Zion Express?